Les colloques du Collège de France.
Bonjour à tout le monde, je suis très content d'être là aujourd'hui. Je voulais vous parler d'un problème de positionnement, typiquement vis-à-vis du machine learning, de l'intelligence artificielle, en tant qu'artiste. Je pense qu'on a du mal aujourd'hui à se positionner et à trouver une place à cet outil dans l'activité artistique de création. Je vais utiliser deux grandes catégories philosophiques, mimesis et catharsis. Donc je m'excuse en avance avec les philosophes dans le public, parce que je ne suis pas philosophe, mais je trouvais ces deux catégories très utiles pour essayer de construire une hypothèse des positionnements que je vais faire aujourd'hui. Alors, avant que je commence, juste un petit mot sur moi, comme Xavier l'a déjà un peu dit. Moi, j'ai un background un peu hybride, et mon travail est un peu à l'intersection de l'écriture musicale, tant que composition, la modélisation mathématique et la créativité computationnelle, c'est-à-dire l'apprentissage ou le machine learning pour le but de la création. C'est un domaine un peu hybride et effectivement ça va vous servir pour comprendre le type de solutions et d'hypothèses que je vais présenter aujourd'hui. C'est un peu une hypothèse hybride. Voilà. Alors, ce talk, on aura deux parties. Une partie sur la créativité, la deuxième partie sur les deux catégories mimesis et catharsis. Alors, on commence avec un peu de musique. J'espère que ça va marcher. Donc, je vais vous jouer un petit peu de Bach. OK. Pour ceux qui connaissent la musique, on a un exemple très intéressant ici des complexités. Donc, d'abord, on a... ça, c'est une fugue. Et la fugue, notamment, est basée sur un sujet. Le sujet, c'est le thème de la fugue qui est l'élément musical principal de la fugue. Mais dans les passages qu'on vient d'écouter, il y a une chose assez intéressante. En fait, il y a une sorte de version dilatée du sujet superposée au sujet. Donc il y a une relation temporelle compliquée, mais qui marche d'un point de vue musical. Mais en même temps, il y a aussi un deuxième sujet qui est inversé et superposé autour aussi. Donc on a trois choses qui sont effectivement dérivées du même élément, le sujet, mais qui ont subi des transformations, la dilatation et l'inversion. C'est notamment des transformations géométriques. Et donc du coup, je pense qu'on peut dire qu'ici, on a un exemple de complexité relationnelle multi-échelle. On a plusieurs échelles temporelles et des relations qui sont mises en discussion ici. Alors, je vais faire un exemple un peu opposé à ça. Donc, ça, c'est une pièce de Ligeti qui s'appelle l'atmosphère. Donc, Ligeti est un compositeur plus récent, évidemment, et je trouve qu'on a ici un type de complexité qui est assez différent. Donc, d'abord, on a un passage du concept des mélodies ou des sujets, comme on avait vu dans la fugue de Bach, vers une chose qui est un peu un flux sonore, qu'on appelle stream en anglais. En même temps, il n'y a pas de rythme, effectivement, dans ces passages. Il y a plutôt une description de densité de la musique. Donc, il y a un moment plus dense ou moins dense de la musique. Et finalement, on n'a pas d'accord. On n'a pas une description traditionnelle de comme la fugue des barques était en do mineur, par exemple. Ici, on a des textures. On a quelque chose de plutôt sur l'aspect qualitatif, si vous voulez. Donc, disons qu'on peut peut-être on peut conclure qu'on a un passage dans cette musique du symbole au signaux, du symbole au son. Ça, c'est intéressant d'un point de vue conceptuel pour l'écriture de la musique, parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire que si on écrit de la musique aujourd'hui, il faut forcément faire face à cette hypothèse différente d'écriture qui n'est pas qu'avec des symboles, mais aussi avec des sons. Donc, pour généraliser ça, je vais vous proposer deux espaces qui existent, qui coexistent dans l'écriture musicale aujourd'hui. Et après, on va parler un peu des maths qui sont derrière à ces espaces-là. Donc le premier espace, c'est ce que j'appelle la musique avec les sons. C'est un espace symbolique, un algèbre de quantités, notamment les intervalles, les distances, les durées. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait en fait une sorte d'algèbre sur le sujet, l'inversion, la dilatation, etc. Mais en même temps, il y a un espace qui est l'espace de la musique dans le son, si vous voulez. C'est un espace de signal, de l'analyse, de qualité. Donc, ce que je veux, disons, vous décrire un peu aujourd'hui, c'est comment la créativité a besoin de ces deux espaces et comment on peut les modéliser, à quel point on arrive à modéliser ces deux choses-là. Donc voilà, ça c'est ce que j'appelle les deux espaces dans la musique, l'espace qui a, l'espace symbolique des quantités et l'espace analytique des qualités de la musique. Après, il y a aussi des choses un peu aléatoires dans la musique qu'on ne peut pas tout à fait toujours décrire. Donc du coup, ma recherche c'est plutôt sur ce sujet. Est-ce qu'on arrive à formaliser la créativité musicale? Est-ce qu'on arrive à trouver le modèle mental d'un compositeur pendant le processus d'écriture? Est-ce qu'on arrive à modéliser avec les mathématiques ou l'informatique ces processus et le supporter ou l'aider? Donc ça c'est un peu au centre de la présentation d'aujourd'hui. Alors, notamment, si on essaie de parler de qu'est-ce que c'est la créativité musicale, il faut se poser la question qu'est-ce que c'est la créativité tout court. Et ça, effectivement, il y a de la littérature, mais ça montre qu'il n'y a pas une version facile pour répondre à cette question. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est la créativité. Là, on a un exemple de Dali, le peintre. Et c'est un exemple qui montre deux concepts qui existent, les montres et ce... melt, comme on dit en français, je sais pas, c'est fondre. Et on a les melting clocks, donc les montres qui se font. Et là, c'est nouveau. Donc la nouveauté, c'est la transformation des deux concepts vieux, si vous voulez, dans un concept nouveau. Mais je veux vous montrer comment les machines sont capables de faire plus ou moins la même chose. Et donc, on se pose la question si on arrive à distinguer la créativité humaine de la créativité algorithmique aux machines. Donc, dans tous les cas, il y a au moins deux essais d'explication de ce que c'est la créativité dont je vais vous parler. C'est le premier cas, c'est un peu plus vieux, c'est Mel Rhodes, dans un papier qui s'appelle « Analysis of Creativity », qui parle d'une sorte d'extension du modèle de Turing, du test de Turing dont on a parlé tout à l'heure. Et disons que l'idée, c'est ça. Au lieu de regarder qu'est le produit, comme dans le cas du Turing, on est exposé à un produit, on doit décider si c'est humain ou artificiel. Là, on doit prendre en considération beaucoup plus de catégories. Donc, le produit, il y a la chose qu'on appelle le product, mais dans la catégorie des 4P, la théorie des 4P de Mel Rhodes, on a aussi la personne, le procès et le presse, ça veut dire le contexte. Donc, on ne peut pas analyser, évaluer la créativité qu'avec l'étude du produit. Donc, est-ce que c'est artificiel ou humain? Il faut aussi considérer l'algorithme qui était construit, le process, qui l'a fait, c'est-à-dire la personne qui l'a fait, et le contexte, si c'était fait il y a 5 ans, il y a 10 ans ou aujourd'hui, parce que ça change beaucoup comment on arrive à évaluer l'aspect créatif. Une autre approche, c'est de Margaret Boden, qui essaye de présenter trois manières de la créativité, la combinaison, la transformation et l'exploration. Donc la combinaison, c'est ce qu'on vient de voir avec le tableau de Dali. Il y a deux objets qui sont combinés pour un nouveau objet. Après, il y a la transformation, c'est le changement de signification de quelque chose qui existe déjà, etc. Il y a plusieurs manières d'approcher la créativité. Les deux approches, dans tous les cas, se posent sur l'idée que ce qui est créatif est nouveau et utile. Donc, nouveau, ça veut dire qu'il n'existait pas avant, et utile, ça veut dire que ça sert à quelque chose, à quelqu'un, à une communauté. Donc ça, c'est quand même assez délicat, c'est-à-dire que on n'a pas vraiment une bonne réponse, mais ça c'est, disons, une des manières d'aborder la chose. Donc si après on se met dans le cadre de dire, est-ce que les machines peuvent être créatives? Alors, bon, je commence très à l'ancienne, disons, c'est Lady Lovelace, qui était peut-être la première informaticienne de l'histoire, qui disait non, les ordinateurs ne peuvent pas être créatifs, parce que pour être créatif, il faut créer quelque chose de nouveau, mais les ordinateurs ne peuvent que faire ce qu'on leur demande. Donc, ils ne peuvent pas créer quelque chose de nouveau. Mais, dans le papier qui était déjà cité aujourd'hui, Alan Turing répond, ben non, en fait, elle ne le savait pas, parce qu'elle n'a pas jamais vraiment programmé un ordinateur. Aujourd'hui, on peut programmer les ordinateurs, et je peux vous dire qu'effectivement, ils sont créatifs quand ils font des erreurs. En fait, c'est l'idée de bug, ça veut dire que c'est une manière d'être créatif pour les ordinateurs. C'est intéressant de voir comment la réponse conceptuelle est basée sur une réponse, sur un résultat technique. Dans le premier cas, on n'avait même pas accès à la programmation. Dans le deuxième cas, on a accès à la programmation, mais on n'avait pas accès à l'intelligence artificielle comme aujourd'hui. Donc je me pose la question, aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on arrive à reconsidérer cette conversation? En fait, je vous donne un exemple. Là, c'est un exemple de Dalí 2, donc le logiciel, pas le peintre, et qui est une machine qui peut générer des images avec du texte. On peut lui demander de faire un bol de soupe qui est portail pour une autre dimension dans l'univers, comme digital art. Et donc, il y a ça, c'est le résultat. Est-ce que ça, c'est aussi créatif que les tableaux de Dalí? Je ne sais pas, il y a plusieurs conseils, la soupe, l'univers et l'art digital mélangé et transformé pour une nouvelle chose. Donc, on a plusieurs exemples. Teddy Bear shopping for groceries in ancient Egypt. Ça, c'est une autre idée un peu bizarre. Et un astronaute riding a horse in a photorealistic style. Un astronaute qui est sur un cheval en style photoréaliste. Donc là, je pense que c'est légitime aujourd'hui de reconsidérer la question. Et est-ce que ça a changé la perception de la créativité grâce aux machines? Est-ce que les machines arrivent à nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est la créativité, même humaine, en fait? Donc du coup, je pense qu'alors il y a une question encore plus antécédente. Est-ce que la créativité existe, tout court? Les machines sont déterministes, typiquement. Donc, du coup, est-ce que la créativité est déterministe aussi? Alors, pour essayer de répondre à cette question, je n'ai pas la réponse à cette question, mais je vais vous proposer un expériment de la pensée, ce qu'on appelle un thought experiment, avec la musique, ok? Après, je veux essayer de quand même tirer des conclusions. Donc, disons que d'un point de vue digital, un son, c'est un ensemble de valeurs, un vecteur de valeurs, qu'on appelle échantillon ou samples. Et donc, du coup, on peut représenter n'importe quel son avec une suite de valeurs. Mais alors, dans un format spécifique, c'est le format CD qui n'existe plus aujourd'hui, mais que j'imagine vous connaissez. On a un encodage qui imagine qu'on a, donc prévoit 44 000 échantillons pour chaque seconde de musique. Et en fait, effectivement, chaque échantillon peut avoir 5 000 possibilités de valeurs. Donc, si on fait les maths, on peut calculer qu'une seconde de musique, disons, est faite par 44 000 puissance 65 000 possibles différentes combinaisons. Ça, c'est large, très large, mais c'est fini. D'accord? Donc, ça veut dire que dans cette seconde de musique, on a n'importe quelle symphonie de Beethoven, donc n'importe quel orchestre, n'importe quel chef, n'importe quel type d'enregistrement on a fait. Donc, tout est présenté comme combinaison de les échantillons de chaque seconde. Évidemment, c'est un expériment un peu paradoxal et provocatoire, si vous voulez, mais effectivement, on parle d'un espace combinatoire énorme, mais fini, pas infini. Donc, de manière générale, un ordinateur pourrait le calculer. Donc, en fait, une possible conclusion à cette expérience, c'est que la question n'existe pas, c'est juste un processus combinatoire qui peut être calculé avec assez de ressources, larges, mais bien finies. Donc ça, je ne sais pas, c'est un peu intéressant, parce que après je vais vous parler d'un problème, qui est le problème musical de l'orchestration, et on va aussi voir comment l'orchestration, qui a l'air d'être une chose assez artistique, c'est-à-dire l'orchestration de Ligeti que vous avez écouté, par rapport à l'orchestration de Beethoven, sont différentes, donc il y a un esprit, disons, artistique, personnel dedans, mais en fait, on peut même les modéliser d'un point de vue combinatoire, et ça marche. Donc, je me demande qu'est-ce que ça nous donne, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à la créativité. Donc voilà, on pose la question pour le moment, on la laisse. Et je passe à la deuxième partie qui invoque les deux catégories de mimesis et catharsis. Donc, d'abord, je définis les deux. Alors, encore une fois, excusez-moi pour l'imprécision de cette définition, mais en fait, Platon disait que la mimesis avait une double signification. C'était à la fois la reproduction rigoureuse, disons, de quelque chose, une copie parfaite, et à la fois l'art de l'illusion, où l'apparence pouvait être, disons, déceptive. Aristote définit la catharsis comme la purification intérieure qui est achevée avec des émotions très fortes, comme la peur ou les terreurs sacrées. Typiquement, dans la théorie esthétique, ces deux concepts, mimesis et catharsis, étaient utilisés pour expliquer la dynamique de la création. Donc en fait, on dit que la mimesis est à l'origine de la comédie et la catharsis est à l'origine de la tragédie. Et il y a Italo Calvino, l'écrivain italien, qui dit que chaque histoire ne peut être qu'une tragédie ou une comédie. En fait, c'est un côté de la médaille, disons. Bon, donc ça, c'est un peu général, c'est un peu catégorie simplificatoire, mais je vais me servir de ces deux catégories pour essayer de faire une hypothèse de comment on se positionne par rapport à la créativité computationnelle, notamment, aujourd'hui. Donc, en gros, l'hypothèse que je vais faire, et après je vais vous donner un exemple de cette hypothèse, c'est que la mimesis, l'imitation, est quelque chose qui peut être, comment dire, imaginé comme une représentation qui modélise et qui copie un phénomène qui existe. Par contre, la catharsis, c'est une sorte de transformation cognitive ou émotionnelle, une sorte de recontextualisation et de création de significations sur quelque chose. Donc l'hypothèse que je propose, qui est un travail artistique et un équilibre entre la mimesis et la transformation. Donc on a un côté mimétique et un côté de transformation chaque fois qu'on fait quelque chose d'artistique. Ça, c'est un peu l'hypothèse. Et je vais vous un peu parler d'une idée, l'idée de comment les machines peuvent contribuer à cette hypothèse, notamment pour un des deux aspects. Alors, pour faire cet exemple, je vais vous parler d'une chose qu'on appelle orchestration assistée par l'ordinateur. Ça, c'est un sujet très intéressant qui était beaucoup étudié au sein de l'IRCAM, par exemple. C'était un problème qui était déjà évoqué par Pierre Boulez et qui était étudié pendant une trentaine d'années, si vous voulez. Et moi, j'ai fait partie un peu de cette histoire, de la partie plus récente. Mais on peut le définir un peu comme ça. D'ailleurs, c'est un problème qui est très attaché, très lié à une particulière communauté des compositeurs, qui c'est les compositeurs spectralistes, qui font la musique inspirée par les sons. Je ne vais pas parler trop en détail de ça, mais en fait, si vous vous souvenez, les deux exemples que j'ai montrés, l'exemple de Bach et l'exemple de Ligeti, j'ai dit que sur l'exemple de Bach, on avait les symboles comme objet de la pensée, mais par contre, dans l'exemple de Ligeti, on a les sons comme objet de la pensée. Donc la musique spectraliste, c'est une musique qui fait recours, qui utilise les sons comme objet primaire de la composition pour déduire des paramètres d'écriture de la musique. Donc dans ces communautés, dans ces cadres, avoir un outil qui t'aide à partir d'un son à générer une pièce, c'est un outil très, très important. Donc ça, on appelle orchestration assistée par l'ordinateur. Donc qu'est-ce que c'est d'un point de vue pratique? C'est un algorithme qui cherche les combinaisons des instruments de l'orchestre qui donnent une sorte d'approximation d'un son réel. Donc on a un son cible, disons, qu'on appelle target, et on essaie de construire une approximation de ce son-là en combinant des notes de l'orchestre. Ça, c'est un peu l'idée générale. Donc, je vais vous montrer un peu, expliquer un peu la chose un peu plus en détail. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, la première phase, c'est l'orchestration. Il y a une partition symbolique, notamment des notes sur une partition, qui est jouée et projetée, si vous voulez, sur l'espace du signal, du timbre. D'accord? Donc, vous sonnez les deux espaces dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est l'orchestration assistée? C'est un peu le contraire, une forme d'induction. On part d'un espace du signal et on va en arrière vers l'espace du symbole. Donc on prend un son et on génère la partition qui a créé ces sons. Attention, là, ce n'est pas de la transcription. parce que c'est un concept beaucoup plus général. La transcription, imaginons d'avoir un pianiste qui joue, hein, on a envie d'avoir la partition de ce qu'il a joué. Bah, disons, le pianiste a utilisé déjà une partition pour produire cette musique, et on a envie de la retrouver. Là, on parle de quelque chose de beaucoup plus général. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ma voix, ou un chien qui aboie, ou un avion qui vole. N'importe quel son peut être orchestré. Donc, on peut générer une partition pour n'importe quel son. Donc, ça, c'est intéressant comme hypothèse de base. Donc, comment ça marche, ce système? Bon, disons, c'est un algorithme. Donc, ce qu'on appellerait aujourd'hui AI, mais on ne l'appelait pas comme ça il y a une dizaine d'années, qui est constitué par plusieurs parties. Bah, disons, d'abord, les entrées de ces systèmes, c'est les sons cibles, effectivement, de ce qu'on a envie d'orchestrer, des contraintes symboliques, notamment l'orchestre, les dynamiques ou le mode de jeu qu'on a envie d'utiliser, et une base de données. Une base de données qui représente la connaissance orchestrale. Donc il y a un algorithme qui est assez complexe. Il y a trois parties que je vais mettre en évidence. La première fois, c'est générer des combinaisons des instruments de l'orchestre. Après, la deuxième partie, c'est les décrire, donc ce qu'on appelle aujourd'hui embedding, donc trouver une sorte de modèle sous-jacent de la machine qui comprend ces combinaisons-là, et après les évaluer, donc mesurer la similarité entre la combinaison qu'on est en train de discuter et les sensibles. On répète ça beaucoup, beaucoup de fois, et à la fin, si on est content, on génère effectivement une partition. Donc on passe du son à la partition. Ça, c'est d'un point de vue un peu algorithmique, mais si on regarde la chose d'un point de vue un peu plus mathématique, qu'est-ce que c'est effectivement? C'est un problème de minimisation sous contrainte. Donc en fait, on essaie de trouver une distance qui est minimisée entre les sons cibles Y et une combinaison linéaire des descriptions, donc de l'embedding, des sons de la base des données. Mais on impose aussi des contraintes. Par exemple, quel orchestre on peut utiliser? On peut mettre la flûte avec le violon ou pas? On peut mettre fortissimo avec piano, etc. Donc il y a des contraintes qui essayent de changer un peu l'espace de recherche de ces problèmes. Alors, je vais faire des exemples juste pour clarifier de quoi je parle. Alors, supposons qu'on a un son cible comme les voitures. Donc, l'algorithme d'orchestration pourrait générer une version qui est basée sur des cuivres qui correspond perceptivement au même son. Je vais faire un autre exemple un peu plus rigolo. Si on a un coq, et on le fait avec tout l'orchestre, on arrive à avoir quelque chose qui ressemble, donc qui est mimétique par rapport à la cible. Ça, c'est intéressant, parce que ça, c'est un exemple de mimesis, si vous voulez, c'est de copie du réel, d'un phénomène réel. Donc la machine nous aide à faire une copie, d'accord? Mais si vous pensez à l'hypothèse que j'avais fait au début, j'ai dit que l'écriture de quelque chose d'artistique a une composante mimétique, oui, mais aussi une composante cathartique. Donc j'essaie d'articuler le discours avec l'exemple d'orchestration assistée de cette manière-là. Donc qu'est-ce que c'est en fait orchestrer avec l'outil d'orchestration? Bah, d'abord, c'est lancer l'outil. Donc, l'outil fait une analyse et il comprend des choses sur la cible, son cible. Après, il fait une sorte de recherche et d'optimisation qui va trouver les candidats pour minimiser cette distance dont on a parlé, sous des contraintes. Mais après, il y a le travail du compositeur qui fait quoi? Qui prend les solutions proposées par l'ordinateur, par les machines, et va imposer encore plus de contraintes ou encore plus de réflexions, disons, pour changer les résultats. Donc, en gros, ici, on a un passage, si vous voulez, de la mimesis, l'orchestre, les sons de voiture qu'on a entendu générés par les cuivres, mais avec une déviation qui est explicitement apportée par les compositeurs. Donc ici, on a une manière de transformer, si vous voulez, l'aspect mimétique en aspect cathartique avec la créativité humaine. Donc, si je me permets de parler d'une pièce que j'ai écrite en 2018, c'est une pièce qui s'appelle Stade d'ombre, Stade des lumières, pour grand ensemble. Et là, on voit un brouillon de la pièce et j'ai mis en évidence une chose. Donc ça, je commence toujours avec un dessin pour mes pièces. Et vous voyez là qu'il y a trois ou quatre exemples qui sont des images conceptuelles que j'ai moi dans ma tête du son. Mais après, ce que vous voyez sur la gauche, c'est l'enregistrement de l'orchestre après que la pièce était créée. Donc, c'est rigolo de voir que les dessins mentaux, l'image mentale que j'avais, et en fait, ça correspond assez de proche, disons, d'une image sonore temporelle, fréquentielle, assez précisément. J'utilisais l'outil d'orchestration assistée, mais j'ai fait un travail de transfiguration du résultat de l'outil. Et j'ai essayé de révéler quelque chose qui s'appelle cathartique. Donc, je vais vous montrer un exemple, disons, le début de cette pièce, où j'ai un son qui est effectivement le son cible qui a généré la pièce, qui est une cloche. Et une cloche qui est utilisée par Jonathan Harvey in Mortuus Plango Vivos Foco, une pièce qui était créée en 1981 pour son de synthèse. C'était une des premières pièces qui parle de l'association, disons, physique d'un son dans le domaine de conceptuel de l'écriture musicale. Donc je vais vous jouer cette cloche. Ça, c'est le son de la cloche. Et Orchidea peut générer... Orchidea, c'est le nom de l'outil d'orchestration. Peut générer énormément des solutions, n'importe laquelle. Je montre une solution par hasard. Donc ça, c'est l'aspect mimétique de la cloche, d'accord? Mais autant que compositeur, je ne suis pas du tout intéressé que le public réalise qu'il y avait une cloche au début de ces processus. Ça, l'intérêt pour moi, c'est plutôt de cacher le fait qu'il y avait une cloche. L'intérêt pour moi, c'est d'utiliser ça comme origine de l'aspect créatif de mon travail. Donc en gros, je n'ai pas intérêt à montrer l'aspect mimétique de l'outil, mais j'ai envie de montrer un aspect, disons, de générer une version cathartique. Donc qu'est-ce que je fais? Et là, on voit le début de la pièce. On va jouer juste une minute du début de la pièce. Donc qu'est-ce que je fais? En fait, j'ai pris le son de la cloche, je l'ai tourné en arrière, donc je l'ai renversé. Je l'ai allongé sur une minute et après je l'ai orchestré. Et après j'ai travaillé sur l'orchestration qui était générée. Et le résultat est quelque chose de ce type-là. Donc ça, pour moi, il n'y a pas effectivement la cloche, on n'entend pas la cloche. Ce qu'on entend, c'est une sorte de mémoire de ce son. Notamment, si on parle un peu plus techniquement, c'est les partiels qu'on garde, mais étalés dans le temps avec une signification totalement différente. Donc c'est ça ce que j'appelle l'aspect cathartique de ce processus d'écriture. Donc du coup, j'ai utilisé effectivement l'outil. Mais je me suis inservi pour arriver à quelque chose d'autre. Ce n'est pas les résultats de l'outil, mais c'était le processus d'inclure l'outil dans mon processus créatif qui était intéressant pour moi. Donc j'essaye de réfléchir d'un point de vue général et je dis, bah, là, c'est où la créativité alors? Bah, disons qu'il y a un système, l'AI comme vous voulez l'appeler, qui est très efficace à explorer un espace combinatoire énorme mais fini, qui peut proposer des solutions mimétiques et qui sont assez bonnes pour commencer à travailler. Mais en même temps, je pense que l'aspect humain, c'est curer, imposer des contraintes et trouver une narrative, une mémoire, un style qui devient de la solution, de la solution générée par la machine et qui assigne de la signification à cette solution. Donc en gros, il y a un modèle de codépendance avec l'outil. La créativité émerge avec le feedback entre la machine et l'homme, avec des propositions, un jugement et une transformation qui est, disons, un cycle. Notamment, la manière de travailler avec ces outils-là, c'est une manière itérative. On a une solution, on réagit à la solution, on repose une question, on a une autre solution, etc. Donc, c'est une sorte d'élaboration d'un espace de recherche qui n'est pas forcément linéaire, c'est plutôt non linéaire et un feedback, donc un cycle. Donc, si on arrive à généraliser, là, je pense que peut-être un modèle qui peut aider pour moi, d'un point de vue, disons, artistique, c'est un modèle de co-créativité. Donc, on partage les boulots, entre guillemets, et on utilise la machine comme méthode de génération à grande échelle et qui peut respecter des contraintes très difficiles à respecter sans la machine. Mais en même temps, on a quand même un besoin d'interprétabilité et, disons, d'écoute dans l'utilisation de cet outil. Le but ici, c'est de générer quelque chose qui ni la machine ni l'homme pourraient faire sans l'autre. Donc c'est un aspect de codépendance, de co-créativité. Il n'y a pas de vrai de la littérature, c'est-à-dire que je ne peux pas vous montrer des preuves de cette chose, c'est juste une intuition et un modèle pratique de travail, si vous voulez. Donc du coup, pour essayer de faire une conclusion, je ne sais pas si on a vraiment une conclusion, on peut dire que la puissance, la force de la machine aujourd'hui, pour moi, c'est la capacité de reproduire de la mimesis à grande échelle, parce qu'on ne peut pas faire cette chose à grande échelle, mais la capacité humaine, c'est d'appliquer une transformation cathartique. Donc, ce modèle d'éco-créativité change la question, les machines peuvent être créatives, dans une question du type, comment on peut co-créer avec les machines. Donc du coup, à mon avis, dans les futurs, et là je veux dire, si j'ai encore une minute, je voudrais réfléchir un peu sur des choses qu'on a dit aussi ce matin. Je pense que dans les futurs, il faut s'attendre à un impact énorme de la machine, même si on ne veut pas le vouloir, disons. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a du mal à se positionner avec les machines, je pense parce que c'est quand même typiquement difficile de soit accepter, soit réjecter les machines, tout court. On a typiquement un regard philosophique qui est très profond, mais qui manque de l'épaisseur technique. Il y a une connaissance technique qui peut-être manque de la largeur philosophique. Et avoir les deux en même temps, c'est extrêmement difficile. Donc souvent, on réagit au produit, on réagit à la génération de la machine, mais on a du mal à réfléchir du modèle sous-jacent qui existe derrière la machine, qui permet à la machine de marcher. Donc tout ça, c'est extrêmement compliqué, hein, en termes techniques et mathématiques aussi, donc on n'a pas vraiment, comme quelqu'un l'a dit ce matin, on ne sait pas pourquoi les choses marchent, effectivement. Il n'y a pas un modèle mathématique qui explique les choses, mais je pense qu'il faut quand même s'attendre à une coévolution des humains et des machines. Ça, c'est un peu inévitable. Moi, je ne suis pas ni dans la partie qui dit qu'il faut absolument se méfier des machines, ni de la partie qu'il faut absolument les utiliser. Je pense justement que c'est juste inévitable. C'est-à-dire qu'on a toujours sous-estimé l'impact de la machine. Ada Lovelace, après Turing, et aujourd'hui. Et si vous pensez aussi au cas des jeux, les jeux d'échecs, les jeux de Go, on pensait jamais que la machine pouvait arriver à faire la chose, mais en fait, elle arrive. Donc, du coup, la question, c'est comment on peut se positionner, autant qu'espèce, vers une nouvelle espèce, l'espèce de la machine. On a effectivement intégré dans notre vie les autres espèces, les animaux, les plantes. Je pense qu'on est sur le point de devoir prendre une décision et de comment on s'est positionné par rapport à cette nouvelle espèce qui est en train d'arriver. Voilà. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.